chemin de la connaissance, la sémiotique dans la cuisine du sens. Aujourd'hui, publicité de la profondeur avec Éric Bertin. Dès la publication des mythologies de Roland Barthes en 1957, la sémiotique s'est intéressée à la publicité. Avec les saponides et détergents notamment, Barthes a montré dans une analyse célèbre comment le discours publicitaire s'est fait l'éloge de la profondeur, une représentation épique de l'intime. Derrière les signes, les stratégies. Tel est aujourd'hui le programme des sémioticiens qui, dans les cabinets d'études, décryptent et analysent les messages publicitaires. Partout présents dans notre univers quotidien, ces messages complexes, précipités de textes et d'images, sont des compositions instables de métalangage et de transtextualité, cette aptitude du langage publicitaire à pratiquer la citation ou à se commenter d'un message à l'autre. Éric Bertin.
C'est vrai que la publicité a tendance à convoquer d'autres textes dans son propre discours. Alors, il y a plusieurs strates là-dedans. Une publicité peut plus ou moins citer une autre publicité de son propre secteur. Par exemple, dans l'univers des sodas, ce qu'on appelle les soft drinks, il y a fréquemment des allusions au discours des concurrents, de manière un petit peu décalée, de manière dissimulée.
Ou même, vous citez cette publicité d'Orangina au moment de son rachat par Coca-Cola, qui évoque à mot couvert, enfin même à demi couvert, cette tentative de rachat.
Oui, oui, oui. Là, c'était effectivement. Là, c'est vraiment un effet de ce qu'on peut appeler un effet de contexte, qui est assez fréquent aussi dans la communication publicitaire. Effectivement, Orangina avait sorti une annonce presse dans la presse économique avec un visuel en gros plan de la bouteille d'Orangina et puis une seule accroche qui disait en gros chaque jour des millions de consommateurs nous achètent et on n'en fait pas tout un plat. Donc c'était une allusion plus ou moins masquée à la tentative de rachat d'Orangina par Coca-Cola. Donc c'est ce type d'annonce qui nécessite ce qu'on appelle un faire interprétatif, plus ou moins actif. C'est-à-dire que le message publicitaire ne se livre pas immédiatement, il se livre au moyen d'un décodage par le destinataire. Alors, ce qui est très important là, je crois, c'est que l'activité interprétative soit accessible. C'est souvent la difficulté, si vous voulez, d'être à bonne distance, comme dirait Lévi-Strauss. C'est vraiment de solliciter les destinataires, donc de valoriser son activité interprétative, mais en même temps de faire en sorte que le sens soit accessible très vite. Parce que, comme on sait, les gens n'ont pas envie de passer des heures devant la publicité.
Mais c'est aussi une façon de créer une interaction avec le spectateur, enfin celui qui est en face de l'affiche ou du film.
Oui, 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 bien sûr.
Et dans cette interaction, le sémioticien, là aussi, a toute sa place, puisqu'il s'agit en fait de langage qui devient presque action.
Oui, oui. Alors je voudrais revenir sur la place du sémioticien, parce que il y a évidemment beaucoup d'éléments qui militeraient pour une intégration assez forte de la sémiotique dans la publicité, dans le marketing. Il y a différents cas de figure. Je crois que une des situations les plus simples, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la concurrence. Donc, dans ce cas-là, prenons l'exemple des lessives. On constitue un corpus en réunissant la communication de toutes les marques de ce secteur sur une durée donnée, peut-être un an, deux ans, trois ans, et dans tous les médias aussi, à la télévision, en presse, en affichage, à la radio, etc. Et on fait une analyse sémiotique de cette communication. C'est-à-dire qu'on essaye de dégager les systèmes de valeurs qui sont propres à chaque marque. Et à partir de ce système de valeurs, qui est la clé, finalement, du projet d'une marque, qui est la clé du sens d'une marque, on articule les différents niveaux qui vont produire le sens dans la publicité. C'est-à-dire que ce système de valeurs-là, il va s'exprimer, il va s'investir, si vous voulez, à travers des thématiques, et puis il va se déployer dans ce qu'on appelle le niveau figuratif, c'est-à-dire des lieux, des actions, des personnages, des époques, tout ce qui forme ce qu'on appelle, nous, en sémiotique, les figures de surface. Et la sémiotique, est très utile justement pour structurer un univers concurrentiel, parce que quand vous regardez un corpus de communication d'un secteur comme les lessives ou je sais pas les produits apéritifs ou les voitures, vous êtes confronté à un foisonnement incroyable d'enjeux, de signification. Mais tout se présente à vous dans des figures de surface. Donc c'est assez compliqué parce qu'il y a un foisonnement de signes, et si vous attaquez la signification par la surface, vous allez au mieux être capable d'inventorier les figures de style qui, en surface, véhiculent le système de valeurs. Et l'intérêt de la sémiotique, en tout cas l'intérêt de la sémiotique grammatienne, c'est de s'intéresser à l'inverse, finalement. C'est-à-dire de se dire, bon, comment est-ce que je peux organiser ce foisonnement de signes qui me parle d'enlèvement des tâches, qui me parle de blancheur, qui me parle de scènes de la vie courante. Comment est-ce que je peux faire en sorte d'organiser ce foisonnement de signes et de hiérarchiser les différents niveaux de sens pour réussir à me dire, bah, tiens, cette marque-là, son territoire, finalement, c'est la continuité. Cette autre marque, son territoire, c'est la douceur maternelle. Voilà, donc la sémiotique, à la différence, sans rentrer dans une querelle d'école, mais je crois que sa valeur ajoutée par rapport à la sémiologie, c'est de se dire, face à un gros corpus, ce qui est important, c'est d'avoir les clés.
Si je suis un peu trastano, je deviens optimiste. Ou si je le dis bien haut,
ou si je le dis bien haut, vive ça.
Si vous prenez la campagne d'Homo qu'on appelle les singes,
Maus Costo.
Voilà, Maus Costo. Les singes, au début, étaient une manière d'émerger dans le paysage lessiviel. Donc de produire de la différence et de l'identité. Donc ça permettait aux gens de se dire, ah, Homo est différent parce qu'il parle aux consommateurs de lessive de manière différente à travers des singes. Et ça permettait donc à la marque d'émerger dans ce paysage et de s'inscrire dans la durée, puisque les singes ont ouvert la porte à une saga. La difficulté ou le paradoxe de l'identité, c'est que une fois que vous avez trouvé vos signifiants de marque, on pourrait dire, ceux qui vous rendent distincts, différents, plus vous les utilisez, et moins ils sont différents. C'est-à-dire que vous perdez cette capacité de différenciation au fil du temps. Mmh. Il y a une forme d'érosion qui se produit. Et donc, c'est pour ça que la gestion de l'identité à deux niveaux est intéressante. Parce que dans l'univers de la communication, la plupart des gens envisagent l'identité comme la gestion de la cohérence. C'est-à-dire, en gros, comment faire en sorte que ma marque reste la même, avec une sorte d'obsession sur la cohérence. Le problème, c'est que très souvent, quand on appréhende l'identité de cette manière-là, on se focalise sur les éléments de surface qui permettent de repérer une marque, qui permettent de la reconnaître. On a tous à l'esprit l'ourson de Cajoline, par exemple. Donc, l'ourson est un signifiant de marque, très très fort, qui permet à la marque d'être repérée dans la durée. La difficulté, c'est que plus vous avancez dans le temps, plus la marque finit par se sédimenter autour de ses signifiants de marque. Si vous voulez, elle s'absorbe entièrement dans ses signifiants de marque. Et donc, à certains moments de l'existence d'une marque, il est nécessaire de faire la part des choses entre ce qui relève de la surface, c'est-à-dire des signes qui permettent de la reconnaître, que ce soit l'ours de Cajoline, que ce soit les singes d'Homo, etc. Et puis, le projet de vie, c'est-à-dire la deuxième dimension de l'identité narrative, qui est cette force de renouvellement, qui fait que, dans certaines circonstances, son projet de vie, c'est-à-dire son système de valeurs, nécessite un renouvellement des figures de surface, nécessite un renouvellement des signes par lesquels on se fait reconnaître.
L'identité narrative, c'est un concept que Jean-Marie Floch avait lui-même emprunté à Paul Ricoeur et qui exprime, dans le fond, à l'échelle d'une vie, pour un individu, la tension entre son caractère, ce qu'on appelle son caractère, c'est-à-dire, la manière dont il est reconnu à travers le temps, et ce que Paul Ricoeur appelle la parole tenue, c'est-à-dire, en somme, ce que cet individu espère de lui-même, en fait, son espèce de projection éthique.
Oui, c'est un...
Et c'est cette tension qui fait sens.
Oui, absolument. C'est un concept qui est très utile pour étudier les problématiques d'identité dans la communication.
Le concept d'identité narrative.
Voilà, absolument. C'est un concept qui décrit l'identité comme une tension dialectique entre une force d'itération, c'est-à-dire de reproduction du même, et une force de renouvellement. Et c'est particulièrement intéressant pour étudier les marques, puisque dans la communication, le premier impératif, c'est l'impératif de cohérence et de continuité. Quand vous lancez une marque dans un secteur qui est la plupart du temps très encombré, il faut réussir à se faire reconnaître, donc l'identification.
Et ne pas en rajouter sur la diversité ou le chaos.
Voilà, essayer de donner des points de repérage aux consommateurs. Mais il faut aussi tenir dans la durée. C'est-à-dire que cette marque que vous lancez, avec ses caractéristiques, son système de valeurs, sa manière de s'exprimer, elle doit tenir dans le temps. Elle doit émerger à un moment donné, dans sa différence et aussi dans sa fonction d'identification dans la durée. Donc, ça, un sémioticien le repère. Son travail, c'est de repérer dans quelles limites l'identité de la marque se déploie. Est-ce que c'est à travers la publicité seulement? Est-ce que c'est aussi à travers le packaging? Est-ce que c'est aussi à travers le concept produit? Vous voyez, il y a différentes strates de déploiement de l'identité, et c'est ce qu'on appelle en sémiotique le syncrétisme, en fait. Le syncrétisme, c'est les différents langages de manifestation qui permettent, pour une marque en tout cas, de s'exprimer. Et le plus on est capable de déployer le message de la marque, de déployer son identité à travers le prisme de l'ensemble de ces langages de manifestation, le plus on a de chances d'être cohérent et de faire passer son message efficacement et en créant un capital de sympathie. C'est le cas pour une marque comme Momo qui joue sur un capital de sympathie important.
Il se lèvera le voile qui ternissait mon regard, et une petite étoile irait splendir sans retard. Mais le réveil a sonné, le quart d'heure est passé. Il faut que le masque me quitte. Un peu d'eau tiède, il se ramollit, se dissout, disparaît, déjà. Le quart d'heure est passé, déjà. Sa douceur est passée, déjà. J'aimais l'étrange caresse de ce masque de jeunesse. Évanoui, maintenant, déjà. Fini mon traitement déjà, mes traits ont retrouvé toute leur jeunesse. Le quart d'heure est passé déjà.
Et ta fatigue avait disparu déjà?
Oui, et avec elle, mes soucis et surtout mes rides.
Vraiment, tu te sentais si reposée, si fraîche.
Reposée, fraîche, il s'agit bien de cela. Je me sentais d'une personnalité seconde. J'étais une autre femme pour qui tous les miroirs étaient des amis. Pour un peu, j'aurais esquissé un entrechassis à la barbe de belle-maman qui arrivait. Corrige a raison, mes chères auditrices, non pas d'esquisser un entrechassis, mais d'adopter le masque Corrige Salomé. Blanc pour les peaux sèches, rouge pour les peaux un peu grasses. Vous trouverez en outre chez Corrige Salomé tous les produits de beauté. Crèmes, fards, rouges, qui sont tous des produits sérieux, étudiés, actifs et simplement présentés.
Éric Bertin.
Ma fonction en agence, c'est le planning stratégique. C'est-à-dire, c'est la fonction qui consiste à accompagner la gestion stratégique d'une marque et la gestion créative.
C'est une espèce de super créatif, en somme. Vous supervisez les évolutions et les recherches dans ce domaine.
Oui, alors je le dirais de façon plus modeste, parce qu'on a une emprise assez limitée sur les créatifs en agence, et c'est tant mieux. Notre rôle, c'est plutôt d'essayer de les accompagner, de leur fournir des briefs, ce qu'on appelle des briefs créatifs, c'est-à-dire des documents qui partent d'une demande du client et qui essayent de reformuler, si vous voulez, la demande du client, de transformer la demande du client en un document qui soit déjà un document qu'on pourrait dire d'inspiration. Dans lequel il y a des angles qui permettent aux créatifs de se dire « Ah ben, tiens, pour parler de tel produit, par exemple si on veut parler de la lessive liquide, pourquoi ne pas penser à des analogies de la force du liquide ?» Des raz-de-marée, faire plonger des gens dans une piscine. Voilà, alors je le dis de manière très très simplifiée, parce qu'en général c'est plus complexe que ça, mais je crois que un des points clés de l'utilité du planning stratégique, c'est effectivement de rassembler un certain nombre d'éléments de connaissance sur les consommateurs, le marché, les marques, les cultures aussi des différents pays.
Vous avez un exemple en tête, Rick Bertin?
Je travaille dans une autre agence où on s'est occupé du problème de l'alcoolisme chez les jeunes, notamment de l'alcoolisme chez les jeunes lycéens. Et on s'est aperçu, en fait, que, et ça c'était les chiffres qu'on recevait du ministère, on s'est aperçu que l'alcoolisme chez les très jeunes lycéens était une porte d'entrée vers les autres drogues. C'est-à-dire que les jeunes commencent à s'alcooliser à l'âge de 12-13 ans dans beaucoup de régions, en se saoulant le vendredi soir et le samedi soir. Et ce type d'habitude ouvre en général la porte à la dépendance. Mais pas à la dépendance à l'alcool, à la dépendance à d'autres drogues. Donc on a réfléchi un peu sur ce problème en se disant, bon, comment est-ce qu'on peut parler à ces jeunes en les sensibilisant au problème de l'alcoolisme, pas en tant que tel, c'est-à-dire pas simplement l'alcoolisme qui mène à l'accident de voiture, mais à un niveau plus général, c'est-à-dire l'alcoolisme qui est un sas d'entrée dans l'addiction de manière plus ou moins irréversible. Et on a trouvé un angle d'entrée qui était de jouer sur le couple d'opposition entre la dépendance et l'indépendance, qui est aussi une manière sémiotique de structurer un sujet, en jouant sur cette espèce de contradiction, de point un peu paradoxal, qui est que, en général, les jeunes utilisent l'alcool pour s'évader. Les jeunes boivent pour être plus sûr d'eux, pour s'intégrer dans des groupes, pour s'éclater. Donc, la valeur qui est quêtée par les jeunes au moment où ils s'alcoolisent, c'est une valeur d'indépendance, ou de liberté, en tout cas.
Liberté et même à l'égard de soi-même.
À l'égard de soi-même, voilà, se libérer totalement de ses propres
entraves.
Et en recherchant cette valeur de libération, d'indépendance, on sombre dans la dépendance de manière plus durable. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contradiction qui s'installe là, entre une indépendance qu'on gagne de manière collective, en groupe, et de manière très ponctuelle, c'est-à-dire très limitée dans le temps, et qui entraîne ce qu'on appellerait un contre-programme narratif, où en fait, le sujet perd son indépendance, perd sa liberté. Et donc on a choisi un angle créatif qui était de dire, en gros, en croyant s'évader, on perd sa liberté. Qui était cette sorte, si vous voulez, de tension entre un système de valeurs contradictoires, qui est la dépendance et l'indépendance, en misant sur le fait que pour les jeunes, l'indépendance est une valeur clé. Donc voilà, ça c'est un exemple où le planning stratégique assemble un certain nombre de connaissances et peut, notamment avec l'aide de la sémiotique, trouver un angle créatif.
Cette campagne, elle avait un versant visuel, image?
Oui, c'est une campagne qui n'a jamais vu le jour parce que c'était une compétition d'agence et nous n'avons pas été sélectionnés. C'est une autre agence qui a été sélectionnée. Il y avait différents projets créatifs justement qui exprimaient cette plateforme et l'une d'entre elles était assez intéressante visuellement. On voyait, c'était très très simple, on voyait une bouteille posée sur une table, une bouteille couchée. Et on voyait une mouche qui s'approchait de la bouteille, qui tournait autour de la bouteille, et puis qui d'un seul coup rentrait dans la bouteille. Et à l'instant où elle rentrait dans la bouteille, on entendait un bruit de, comme un bruit de soirée, rêve party ou discothèque. Donc extrêmement bruyant, avec des bruits de rire, des bruits de verre, des bruits de musique, des gens qui parlent entre eux. Et au fur et à mesure que le film continuait, la musique et le chaos sonore accompagnaient les mouvements de la mouche à l'intérieur de la bouteille. Mais très très vite, on comprenait que la mouche ne pouvait pas ressortir. C'est-à-dire qu'elle était prise à l'intérieur de cette bouteille et que progressivement elle s'isolait, puisque au fur et à mesure, le niveau sonore et les interactions verbales et sonores déclinaient pour laisser place finalement la mouche seule dans la bouteille. Voilà, donc c'était une manière très simple et justement très sonore et visuelle de parler de ce sujet-là.
The time is now 3 a.m.